C'est le retour cette semaine de la chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Hein, cette chronique qui était là la saison dernière et qui nous reviendra chaque deux semaines, les mardis après-midi. Et là, ben, on l'a vécu, hein, la fin des vacances, la rentrée. Pour nous, c'était la semaine dernière. Et là, ça continue. C'était, oui, le retour des enfants à l'école, le retour des adultes au travail pour plusieurs. Et c'est important de le mentionner, hein, au travail, parce que au Québec, 94 750 accidents du travail sont recensés dans la province. Ce sont des chiffres de 2020 et ce sont 9 982 travailleurs qui ont subi une maladie professionnelle. Donc, au total, c'est près de 105 000 lésions professionnelles et ce nombre-là, ça représente une baisse, ah oui, par rapport à 2019, mais d'à peine 2,5%. Alors aujourd'hui, on va parler, fidèle à l'habitude, avec Maître Geneviève Graton, qui est directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais et notaire, pour parler un peu plus là, justement de ces règles essentielles pour bien connaître le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Tout d'abord, Geneviève, bonjour et re-bienvenue à l'antenne.
Bonjour Sébastien, heureuse d'être de retour.
Pour commencer, peut-être juste nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement ce régime dont je parlais, le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Bien, au Québec, de façon générale, le travailleur victime d'une lésion professionnelle est indemnisé par le régime prévu par l'État québécois. C'est la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, donc la LATMP, mais je vais plus souvent l'appeler la loi ou la loi sur les accidents du travail.
Parfait.
Donc, elle prévoit les mesures de réparation et le droit au retour au travail en cas de blessure ou de maladie liée au travail. Donc, un aspect important du régime, c'est l'indemnisation du travailleur sans égard à la responsabilité de l'employeur ou du travailleur. Mm-hmm. Donc, lorsqu'il y a un événement qui survient, il va être couvert par la loi, et qui est couvert par la loi, pardon, le travailleur recevra une compensation sans égard à la faute. Évidemment, il y a une exception à ça. Donc, si l'accident survient en raison de la négligence grossière et ou volontaire du travailleur, bon, dans ce cas-là, ça ne sera pas indemnisé, mm-hmm. à moins qu'il en conserve un préjudice grave.
OK.
Donc, c'est la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST. Là, je pense que là, ça sonne plus de cloche.
Oui, un petit peu plus.
oui, hein? Qui s'assure de l'application de la loi et qui traite les réclamations des travailleurs.
Puis, qui est-ce qui est accessible à ce régime-là?
Bien, il s'applique à un travailleur québécois victime d'une lésion professionnelle et dont l'employeur a un établissement au Québec lorsque l'accident survient ou que la maladie est contractée. La majorité des travailleurs là, sont automatiquement assurés par le régime, puis ils n'ont rien à payer pour être inscrits particulièrement. L'accident est retiré directement par l'employeur et on peut voir l'inscription sur le relevé de paie. Cependant, certains travailleurs, comme les travailleurs autonomes, doivent s'inscrire et payer des cotisations à la CNESST pour être indemnisés.
Puis, est-ce qu'il est possible de renoncer au régime?
Non, parce qu'elle est d'ordre public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'y déroger. Cependant, une convention ou une entente avec l'employeur peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la loi. Le travailleur autonome, lui, il n'est pas obligé de s'y inscrire, mais en conséquence, il ne pourra pas y recourir si un accident survient pendant l'exercice de ses fonctions.
Puis est-ce qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle pourrait intenter un recours en responsabilité civile contre son employeur? On va au-delà de la loi, là, mais est-ce que ce serait possible?
Non. Non, parce que le travailleur pourrait pas intenter un recours en responsabilité civile contre son employeur en raison de la lésion, parce que ça prévoit une immunité absolue pour l'employeur. Parce qu'on se rappelle que c'est un sans-faute. Donc, peu importe si l'employeur ou l'employé a fait une faute, ça n'aura pas d'impact sur la responsabilité.
Bon, là, allons-y dans la définition, là. Un accident de travail, là, qu'est-ce que c'est?
Oui, bon. Alors, c'est un événement imprévu et soudain qui survient au travail à un travailleur, évidemment, qui lui cause une lésion professionnelle.
Okay.
Il doit y avoir une certaine relation de cause à effet entre l'accident et la lésion. Donc, un soudeur qui est en train de souder un morceau de métal puis qui reçoit un éclat dans l'œil, ben, on peut voir la cause à effet.
Mm-hmm.
Donc, l'événement est survenu de façon imprévue et soudaine pendant que le travailleur est en train de faire son travail. Puis, ça a causé une blessure. On peut aussi penser à une infirmière ou à un préposé aux bénéficiaires qui aurait soulevé un patient un peu trop lourd ou d'une mauvaise façon et qui se serait blessé au dos.
Puis qu'est-ce qu'un travailleur doit faire quand il est victime d'un accident de travail?
Bien, il doit aviser son employeur dès que possible. Évidemment, c'est pas toujours possible de le faire rapidement. Mm-hmm. Mais quand le travailleur n'est pas en mesure de le faire lui-même, un collègue de travail, son délégué syndical ou une autre personne disponible peut s'en charger pour lui. Donc, l'employeur doit offrir au travailleur les premiers soins et le faire transporter à ses frais, chez lui, à l'hôpital ou chez le médecin de son choix, selon l'état, évidemment. Mm-hmm. Donc, le travailleur doit aussi consulter un médecin pour obtenir une attestation médicale. Par contre, si le travailleur ne peut pas retourner au travail après la journée de l'accident, il doit présenter l'attestation médicale à son employeur pour qu'il lui paye son salaire pour la journée malgré son absence.
Okay.
Par la suite, si le travailleur n'est pas en mesure de réintégrer ses fonctions, il recevra pour les 14 premiers jours d'absence une rémunération directement de son employeur à hauteur de 90 % de son salaire net pour chaque journée où il aurait normalement travaillé.
Mm-hmm.
Si le travailleur est absent pendant plus de 14 jours, il doit produire lui-même une demande à la CNESST pour être indemnisé. Donc, la CNESST va lui verser directement son indemnité de remplacement de revenus. La CNESST ou l'employeur peut demander au travailleur de passer d'autres examens médicaux, par contre. Donc, le travailleur a l'obligation d'y aller. Là, il ne peut pas dire non, ça ne me tente pas. J'ai pas envie d'y aller. Donc, c'est pas une option, par contre. Donc, les frais alors assumés par l'employeur ou sont assumés par l'employeur ou la CNESST si c'est eux qui le réclament.
Mm-hmm.
Puis après l'étude du dossier, la CNESST va décider si le travailleur peut recevoir des indemnités.
Puis sinon, autre que l'indemnité de remplacement du revenu, est-ce que d'autres indemnités que le travailleur pourrait recevoir?
Bien, il est important de savoir qu'un travailleur pourra bénéficier de l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'il aura besoin de réadaptation,
mm-hmm,
et qu'il ne sera pas revenu apte à exercer son emploi ou à exercer son emploi. Si cet objectif ne peut pas être atteint, tant qu'il en aura besoin pour devenir apte à exercer un emploi à temps plein convenable.
OK, donc en vraiment, fait, il y a des marges à atteindre là, pour que ça cesse puis ça termine. Là.
Oui, exactement. Mais ensuite, peu importe le délai d'absence au travail du travailleur, le travailleur peut aussi faire une demande à la CNESST pour se faire rembourser certains frais médicaux qui sont reliés à l'accident.
Mm-hmm.
Par exemple, la CNESST va payer les médicaments et les soins hospitaliers, de même que le prix des orthèses et des prothèses lorsqu'elles sont prescrites, évidemment. Enfin, ça se peut qu'à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, un travailleur subisse une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique. Il a alors droit à une indemnité forfaitaire pour préjudice corporel, ça veut dire un montant global.
Et si la CNESST décide de ne pas indemniser un travailleur, est-ce qu'il est possible pour lui de contester cette décision-là?
Oui, il a 30 jours pour demander la révision de la décision et faire valoir ses arguments. Puis, la CNESST va alors rendre une deuxième décision. Si le travailleur n'est toujours pas d'accord avec cette nouvelle décision, il peut alors demander au tribunal administratif du travail, le TAT, de trancher. Le travailleur, généralement, 45 jours pour faire une demande au TAT.
Bon, là, on a parlé d'accident de travail. Parlons maintenant de maladie professionnelle. Qu'est-ce que c'est précisément, là, ben, au sens de la loi dont on parle depuis tantôt?
Oui, parce que c'est vraiment quand même différent. Une maladie professionnelle, c'est une maladie qui est causée par le travail, soit en raison des tâches qui sont liées au travail ou de l'environnement de travail. Donc, la maladie professionnelle doit être premièrement directement liée avec les risques associés au travail ou être spécifique au type de travail, c'est-à-dire que plusieurs travailleurs qui exercent ce travail ont développé cette maladie. On peut penser aux maladies pulmonaires comme l'amiantose, qui est caractéristique d'un travail où quand on est exposé à l'amiante.
Mm-hmm. Qu'est-ce qu'un travailleur doit faire justement dans un cas de maladie professionnelle?
Bien, la marche à suivre est vraiment sensiblement la même que dans le cas des accidents de travail. Il est important de noter qu'un travailleur atteint d'une maladie professionnelle a 6 mois pour faire sa réclamation à la CNESST. Mais le délai il commence lorsque le professionnel de la santé traitant diagnostique la maladie ou au moment où vous vous rendez compte que la relation est probable entre la maladie et le travail. Donc, quand on fait le lien entre les deux.
Mm-hmm. Et est-ce qu'un travailleur peut perdre son emploi en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle?
Non, un employeur ne peut pas congédier un travailleur parce qu'il a été victime d'un accident de travail ou qu'il a contracté une maladie professionnelle. Lorsque le médecin du travailleur considère qu'il peut retourner travailler, là, le travailleur doit informer son employeur. Il a alors le droit de retrouver l'emploi qu'il occupait avant son accident du travail ou sa maladie professionnelle. Mm-hmm. Si c'est pas possible, parce que l'emploi n'existe plus ou que le travailleur est plus capable d'effectuer ses tâches, l'employeur doit lui fournir un emploi équivalent ou adapté. Le droit de retrouver son emploi, c'est pas éternel, par contre.
OK.
À partir du premier jour d'absence du travailleur, il a 1 an pour retourner à son emploi si l'entreprise compte 20 employés ou moins, puis 2 ans pour retourner à son emploi si l'entreprise compte 20 employés et plus.
OK.
Puis si le travailleur a un contrat de travail avec une date de fin, il a le droit de retrouver son emploi jusqu'à la fin de ce contrat s'il n'est pas terminé.
Puis, est-ce que le travailleur serait indemnisé s'il se blesse ou développe une maladie alors qu'il travaille de la maison, hein, le télétravail dans les dernières années? Ça fait des petits pas mal.
Oui, la question est tout à fait judicieuse. Les règles qui s'appliquent au télétravail sont généralement les mêmes qu'au bureau en faisant les adaptations nécessaires. Comme les autres salariés, les travailleurs sont donc protégés par les lois qui visent la santé et la sécurité du travail. Par exemple, en 2019, le TAT a conclu qu'une travailleuse avec un diagnostic d'épicondylite du coude, donc une douleur au coude, mm-hmm. avait développé une maladie professionnelle. Donc, la travailleuse effectuait l'ensemble de ses tâches à l'ordinateur. Elle utilisait une souris et un clavier avec des gestes vraiment répétitifs sur des périodes de temps prolongées. Peut-être que le fardeau de la preuve va être un peu plus difficile à exprimer ou à démontrer plutôt dans ces cas-là.
Et est-ce que l'employeur a des obligations pour assurer la sécurité de ses travailleurs? On a posé la question, c'est un peu y répondre, mais quand même, au niveau de la loi, qu'est-ce que ça dit?
Oui, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs et travailleuses. Ça semble tomber sous le sens, mais c'est quand même une obligation. Mm-hmm. Donc, par exemple, l'employeur doit fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état et informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail. Les travailleurs ont aussi l'obligation de veiller à leur propre santé et sécurité, ainsi que celle de leurs collègues. Là. Et ils doivent être prudents, puis pas adopter des comportements négligents.
Puis bien là, on a fait un survol, mais c'est vaste cette loi-là, puis ces règles-là. Si on veut en savoir plus sur le sujet, Geneviève?
Mais la meilleure source, là, c'est la CNESST. Mm-hmm. Sauf qu'on n'a pas abordé l'impact psychologique d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, mais c'est important de savoir que ça en a un souvent. Puis si vous avez des idées suicidaires, c'est important d'aller chercher de l'aide et de communiquer, par exemple, dans la région de Maniwaki avec Suicide Détour, mm-hmm. 819-441-1010. Suicide Détour, vous le savez bien, là, est un organisme communautaire autonome qui a but non lucratif qui est situé à Maniwaki, puis qui a pour mission d'intervenir au niveau de la prévention du suicide ou d'appeler au 811 l'option 2 pour du soutien.
De très bons rappels, ça, Geneviève. Et est-ce qu'il y a un dernier message à lancer à nos auditeurs là, pour la chronique de cette semaine?
Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous font confiance en nous sollicitant, puis encourager tout le monde à venir nous visiter au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Puis si c'est pas possible en personne, appelez-nous au 1-844-606-4600, c'est sans frais, ou au 819-646-00 pour des compléments d'information. Vous pouvez toujours nous suivre aussi sur Facebook, Instagram. Puis je rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe votre revenu.
Maître Geneviève Gratton, directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais et notaire, un grand merci pour ces précieuses minutes. Puis, ben, on se reparle dans 2 semaines.
À dans 2 semaines, Sébastien. Merci beaucoup.